La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à vous tous ici en ce jour d'ascension, un jour de fête, un jour où nous pouvons nous recueillir autour d'une tradition des ascensions. Donc les ascensions étant des textes apocalyptiques, nous avons toute une tradition autour de ces textes dans le christianisme. Et dans les autres religions aussi, ces ascensions existent. Et nous allons aujourd'hui nous pencher sur cette question particulière de l'ascension. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez par le biais des réseaux sociaux. Nous sommes ensemble dans la communion fraternelle ce matin, ici à l'Oratoire du Louvre, avec vous qui êtes peut-être au loin, peut-être empêchés de venir ce matin, peut-être regarderez-vous ce culte en différé, mais nous sommes ici ensemble dans la communion fraternelle ce matin. Je vous invite à prier pour entrer dans ce temps de culte. Éternel, bénis-nous au moment où nous nous retrouvons ensemble pour écouter ta parole. Éclaire notre esprit et permet que nous puissions entendre et comprendre pour nous-mêmes ce que tes témoins nous transmettent de siècle en siècle. Que ta parole nous nourrisse ce matin, que nous puissions entendre cette élévation dans notre vie. Rassemble-nous dans la fraternité. Amen. Et je vous invite à entrer dans ce temps de culte avec le premier répond. Tous les réponds sont au début des psautiers français. Vous avez toute la liturgie. Ô Seigneur, ta fidélité, c'est Aurélien Péter qui est avec nous et qui nous accompagne à l'orgue.
Et nous restons debout pour louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera vaillante dans le pays. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa main des biens et des richesses, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui fait grâce, qui est compatissant et juste. Il est bon qu'un homme fasse grâce et qu'il prête, qu'il règle ses affaires d'après le droit, car il ne chancellera jamais. Le souvenir du juste dure toujours. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est inébranlable, il n'a pas de crainte. À la fin, sa vue s'arrêtera sur ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux pauvres. Sa justice subsiste à jamais, sa puissance s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents et se consume. le désir des méchants périra. Amis, frères et sœurs, je vous invite maintenant à poursuivre notre louange et nous prendrons le chant du psaume 138 que vous trouverez dans le psautier français. Psaume 138, et nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Prenez place. Et nous continuons notre liturgie avec les réponses qui se trouvent au début du psautier français. Prions ensemble. Terre à terre, regardant le bout de nos chaussures, nous peinons à regarder le monde que tu promets. Pourtant, tes témoins racontent à toutes les pages de la Bible que tu es le Dieu qui libère, qui redresse les vies courbées par la peine, l'humiliation ou l'indignité. Terre à terre, engluée dans la glaise d'Adam, nous attendons d'être façonnés par l'artiste de la vie, celui qui nous donnera une âme, celui qui nous animera. Pourtant, tes témoins racontent comment ton souffle les a fait renaître à une vie selon la foi, l'espérance et l'amour. Terre à ciel, fais-nous lever les yeux vers ton règne où chacun est digne d'être aimé, parce que tu nous aimes déjà. Terre à ciel, aide-nous à relever la tête pour témoigner de ta résurrection toujours possible dans nos vies. Amen. pour accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Le Seigneur nous redit sa grâce et dit à chacun de nous : Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Chantons à Dieu notre reconnaissance.
Confessons ensemble notre foi. Je crois en un Dieu unique, un Dieu d'amour, libre et tout-puissant, créateur des choses visibles et invisibles. Il parle à tous les cœurs et nous aime sans condition. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu et homme, venu pour annoncer la grâce que Dieu donne gratuitement à tous. Toujours vivant, il nous appelle à construire aux côtés de Dieu un monde de justice, d'amour et de paix. Je crois au Saint-Esprit, puissance créatrice, présence et sagesse de Dieu, qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Je crois que la véritable nature de l'homme, image de Dieu, est de faire le bien. Je crois que par l'amour, la vie touche à la vie éternelle et qu'en Dieu, nous demeurons dans la dignité et la liberté. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. En ce matin d'Ascension, je vous propose de regarder de près l'ascension d'un autre que Jésus. Non pas pour faire écran, mais pour expliquer l'ascension qui est racontée à propos de Jésus. Et dans le deuxième livre des Rois, au deuxième chapitre, les versets 1 à 14, nous trouvons l'ascension d'Élie. Quand le Seigneur fit monter Élie au ciel dans une tempête, Élie partait pour le Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie. Le Seigneur m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « Par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » Ils descendirent à Bethel. Les prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur te prend ton maître ?» Il répondit, « Je le sais, moi aussi. Taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie. Le Seigneur m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « Par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » Ils arrivèrent à Jéricho. Les prophètes qui étaient à Jéricho vinrent dire à Élisée : « Sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur te prend ton maître ?» Il répondit : « Je le sais, moi aussi, taisez-vous. » Élie lui dit : « Reste ici, je te prie. Le Seigneur m'envoie au Jourdain. » Il répondit : « Par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » Ils continuèrent à marcher tous les deux. 50 hommes d'entre les prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent en face, à quelque distance. Eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se divisèrent de part et d'autre. Et ils passèrent tous les deux à pied sec. Pendant qu'ils passaient, Élie dit à Élisée : « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois pris d'auprès de toi. » Élisée répondit : « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton souffle. » Élie dit : « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai pris d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. » Comme ils continuaient à marcher en parlant, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Alors Élie monta au ciel dans une tempête. Élisée regardait et criait : « mon père, chars et attelages d'Israël !» Puis il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il revint et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les eaux et dit : « Où est le Seigneur Adonai, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi il frappa les eaux, qui se divisèrent de part et d'autre, et Élisée passa. Je vous invite à prendre le psaume 81 dans les psautiers français, les strophes 1, 2, 3 et 4. 81. Prions ensemble. Éternel, inspire-nous au moment où nous lisons les témoignages anciens, que tous ces croyants qui nous ont parlé à travers tous ces textes qui nous sont parvenus puissent nous éclairer sur qui tu es pour chacun. Permets, Seigneur, que dans nos vies tu deviennes notre Dieu, et que ta parole soit vive. Amen. Nous parlons de l'ascension comme s'il n'y en avait qu'une. Mais les ascensions sont nombreuses dans les cultures apocalyptiques du temps de Jésus. L'ascension d'Abraham, par exemple, raconte l'enlèvement au ciel du Père des croyants et la révélation qu'il reçoit de l'avenir des peuples et de la destinée d'un de ses descendants. Le livre d'Énoch parle aussi d'une telle connaissance du jugement dernier. Dans l'islam, le prophète Mohammed lui-même est enlevé au ciel lors du voyage nocturne entre Jérusalem et la Mecque et il rencontre alors Dieu qui lui donne ses prescriptions en matière de piété. Quelle que soit l'époque, le motif de l'ascension semble être un passage incontournable dans la validation des prophètes. L'ascension de Jésus s'inscrit donc dans une longue tradition dont l'exemple le plus emblématique est sans nul doute Élie. Dans le cas d'Élie, il ne s'agit pas tant d'une initiation du prophète lui-même que de celle de son disciple Élisée. C'est ce motif qui sera pris par les évangiles qui semblent tous poser la question « Comment fait-on après la disparition du maître ?» Posant un problème de fidélité, problème de légitimité, la mort du maître fait craindre presque à coup sûr une guerre de succession. Et ce sera le cas dans le christianisme avec ceux qui étaient de la famille de Jésus et qui suivaient Jacques, le frère de Jésus, et puis tous les autres qui avaient entendu sa parole et qui, eux aussi, pouvaient devenir des maîtres. Qui reprendra le flambeau et de quelle manière fera-t-il sien l'enseignement du maître? Dans le second livre des Rois, la scène est touchante. Élie, comme pour préserver son disciple, cherche à échapper à sa vue quand celui-ci fait tout pour rester coûte que coûte avec lui et le voir jusqu'à son dernier instant de vie terrestre. Les prophètes qui, en grand nombre, sont autour de lui sont déjà persuadés qu'Élie disparaîtra bientôt et semblent vouloir rendre Élisée lucide sur la suite des événements, comme s'il devait déjà faire le deuil de son maître. Élisée leur répond « Je le sais, moi aussi, taisez-vous. » Rien que cette pensée est trop dure pour lui. Étonnante chorégraphie entre ces deux-là qui jouent chacun leur partie dans ce duo du maître et de l'élève. Élie semble tout faire pour qu'Élisée se détache de lui et le laisse partir, tandis qu'Élisée semble tout faire pour se rapprocher encore de celui dont il est infiniment redevable. Étrange pas de deux qui se conclut sur une traversée à pied sec du Jourdain. Acte mémoriel du passage de la mer Rouge, ultime leçon, peut-être la plus importante, donnée au jeune disciple qui devra apprendre à exercer la liberté donnée par Dieu, quelle que soit la situation, même la plus difficile. Élie lui-même n'a-t-il pas vécu en fuyard la plupart du temps, menacé de mort à cause de cette liberté ancrée en lui et qui le faisait annoncer la parole de Dieu là où on ne voulait pas l'entendre? N'a-t-il pas voulu mourir de s'être aventuré à vouloir servir son Dieu contre tous les fidèles du Dieu de Jézabel? C'est là le chemin que trace Élie devant les pas de son disciple. Un chemin exigeant, périlleux, qui vous, quiconque l'emprunte, à une impossible tranquillité de l'âme. Est-ce vraiment ce chemin qu'Élisée veut emprunter? Peut-on jamais suivre un maître? Avons-nous des maîtres, nous-mêmes? Et si oui, un bon maître n'est-il pas un maître disparu au bout du compte? Car enfin, la question de la fidélité au maître se semble se poser justement au moment où il va nous être enlevé. Élisée appelle Élie « Mon père, mon père » au moment même où il lui est enlevé. Ne dit-on pas qu'il faut tuer le Père pour pouvoir s'en libérer ? Et si l'absence d'Élie permettait enfin à Élisée de prendre toute son ampleur de prophète, et si chez nos maîtres, c'était leur absence qui créait en nous le meilleur des fruits de ce qu'ils y ont planté ? Les récits bibliques nous montrent combien est encombrant un patriarche ou un prophète tant qu'il est présent. On se souvient du peuple qui maugrait contre Moïse, ou de Jean le Baptiste qui provoque la confusion entre Jésus et lui pour savoir qui est véritablement le Christ. Les disciples sont très ennuyés avec ça. Les récits bibliques montrent que leurs rédacteurs ont de la peine à rendre compte de la postérité de ces figures essentielles dans l'édification des communautés qui les suivent. Moïse meurt par exemple avant l'entrée en terre promise, comme s'il fallait s'en débarrasser avant que les choses intéressantes commencent. Et son ensevelissement connaît deux versions différentes et contradictoires. Jean le Baptiste meurt lui aussi, mais un dialogue pour mettre les choses au point est nécessaire dans sa prison avec les disciples venus le questionner sur son identité véritable. Qui est-il vraiment ? Est-ce qu'il faut attendre un autre Messie ? Et du coup, quelle est la place de Jésus ? Quant à Élie, il ne meurt pas, mais il est enlevé au ciel par un char de feu et masqué par la nuée, signe de la gloire de Dieu. Alors, que dire de la mort de Jésus ? Lui, le crucifié, dont le tombeau se révèle être vide. Accepter la mort du Maître, c'est l'enterrer, lui, et commencer à trier ses idées. C'est acter qu'un temps nouveau commence, et ce n'est pas facile. Alors, quoi de plus parlant pour dire cette difficulté qu'un récit d'ascension qui transforme la disparition ? Car enfin, pourquoi choisir précisément ce mouvement de la terre vers le ciel, si ce n'est pour dire ce qui est essentiel dans la relation du maître à son élève ? Élève, tiens, quel mot intéressant pour ce qui nous occupe aujourd'hui. L'éducateur qui semble soumettre ses règles, à ses règles celui dont l'éducation lui est confiée, est en fait le même qui élèvera celui qui semble vivre sous son influence. Ainsi, quand Élie fait traverser Élisée à pied sec en guise de chemin initiatique de libération, peut-être est-il en train de le préparer à ce qui sera l'aboutissement de tout son enseignement, le rendre capable de regarder vers le ciel pour pouvoir faire lui aussi ce que le Maître fait devant lui. Élie suivait son maître sur la terre comme on suit un homme de chair et de sang, et désormais, c'est son caractère spirituel qu'il devra suivre, libéré de la chair, du temps et de l'espace. Élie rejoint ainsi le monde des idées, des modèles, des archétypes. Il est devenu plus grand que lui-même parce qu'il porte en lui tous les possibles qui s'offrent à la pensée d'Élisée. L'ascension d'Élie permet l'élévation d'Élisée. Il est maintenant capable de traverser la figure d'Élie, le grand prophète, pour comprendre le rôle fondamental du prophète que lui-même sera. Il devient lui-même en regardant son maître. Il le regarde disparaître au profit de ce qu'il lui a appris, traverser. Le manteau n'est pas un détail dans cette affaire. Il est le vêtement qui revêtait le maître et le voilait jusqu'alors. Il devient l'outil qui permet d'être prophète lui-même, le signe d'une puissance qui est passée du maître à l'élève, signifiant efficace qui accomplit ce qui a été transmis. Le manteau, dans la culture où se déploie le récit, est une pièce essentielle de l'humanité d'un être. Selon la loi, on ne peut le retenir en gage à l'homme endetté au-delà du coucher du soleil,
car dans une société comme celle-là, c'est un élément vital pour survivre. C'est aussi l'identité d'une personne, car dans une société traditionnelle où les vêtements ne sont pas standardisés mondialement comme dans la nôtre, il annonce la richesse ou la pauvreté, le pays d'origine ou encore la fonction sociale selon l'étoffe ou les couleurs, selon la façon dont il est drapé autour du corps. Le manteau est ce qui reste à un homme quand il a tout perdu. Pour Élie, le manteau fut son abri et faillit être son linceul quand il ne voulait plus vivre. Ici, il devient le bâton de Moïse, arme du pouvoir de Dieu, donnée à un humain pour qu'il fasse en son nom des prodiges. Élisée revêtira le manteau de son maître comme on endosse une nouvelle fonction, avec sa charge émotionnelle, traditionnelle et symbolique, comme le pasteur qui revêt une robe pastorale, et avec elle le poids de l'histoire des réformateurs et la liberté de leur enseignement. Mais peut-être faut-il que cette robe soit roulée elle aussi, froissée et malmenée jusqu'à devenir comme le bâton de Moïse pour qu'enfin quelques prodiges montrent la gloire de Dieu, qui sait. De qui héritons-nous nos robes? Et plus généralement, de qui revêtons-nous l'habit, l'enseignement, la vocation? Acceptons-nous encore d'avoir des maîtres dans cette société où on nous enjoint d'être autonomes, indépendants? Pour ma part, je dirais que j'ai eu des maîtres, mais je parlerai ici seulement d'un d'eux. Ce n'était peut-être pas l'enseignant le plus novateur aux yeux du monde, mais il a été certainement le plus original au sens où il partageait sa culture et ce qu'il avait lui-même pensé quand il nous enseignait. Il n'était peut-être pas le plus fécond en théorie personnelle, mais c'est celui qui m'a permis de mesurer l'épaisseur des connaissances qu'il me faudrait acquérir pour comprendre, ne serait-ce qu'un peu, de ce qu'on appelle la théologie. Son érudition exceptionnelle en philologie et en patristique se transmettait avec une simplicité et une passion, me donnant l'illusion que cette culture nous serait, à nous, ses élèves, accessible un jour, peut-être après 3 ou 4 vies de lecture quand même. Mais plus encore, à travers cet enseignement, je comprenais que la recherche et l'étude inlassable étaient le prix à payer pour être élevé en tant, un tant soit peu, à une pensée théologique. Et à travers cette pensée, au sens même de ma vie. Extraordinaire miracle que cet enseignement maîtrisé par un maître qui savait faire chaque geste de la pensée, tel un artisan d'art qui avait vu passer tant de textes anciens sous ses yeux, qu'il était capable de les relier entre eux par un fil de chaîne, invisible aux novices, mais qui constituait une étoffe culturelle d'une solidité résistante à toute objection. Élisée doit maintenant se débrouiller sans son maître. Il déchire ses vêtements en signe de deuil et ramasse ce qu'il lui reste de son maître, ce qu'il a compris, figuré par son manteau. Et c'est maintenant là où disparaît le maître que commence véritablement la formation de l'élève. Là où, seul avec ce qu'il a retenu, avec les questions qu'il ne pourra plus jamais poser à son maître, qu'il transformera ce qu'on lui a légué en matière vive pour agir à sa façon. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, dit Jésus à ses disciples au moment de son ascension dans l'évangile de Luc. Il n'est plus ici, lui non plus, mais il leur parle encore. Comme dans un futur antérieur propre à élever l'esprit, l'ascension offre un avenir et une promesse énoncée par un maître qui semble dire « Quand vous m'aurez laissé partir, vous serez mes disciples. » Tant que le maître et l'élève restent ensemble, l'invention est impossible, car le mimétisme empêche la création. Avec un Christ vivant, pas de christianisme. Même chose pour le luthéranisme ou le calvinisme, que leurs inspirateurs auraient sans doute pris pour des dévoiements de leurs pensées. Les disciples ont revêtu le Christ et l'ont ainsi ressuscité, comme on revêt le manteau prodigieux d'Élie, en le froissant un peu pour qu'il devienne l'outil d'une révélation pour eux et pour ceux qu'ils avaient à enseigner eux-mêmes. Pour que le Dieu du Christ devienne Dieu pour eux, pour nous. Pour que Moïse, Élie et Jésus, nos maîtres, nous élèvent vers celui en qui ils avaient placé leur foi. Les ascensions nous invitent à regarder nos maîtres s'élever pour qu'à notre tour nous regardions plus haut, au-delà de nos maîtres, celui qu'ils ont voulu nous faire connaître. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 190, les strophes 1, 2, 3 et 4 dans les louanges et prières.
Thank you.
Voilà, je vous invite à vous asseoir après cet ascenseur théologique. Vous avez vu le cantique, comment il est construit, hein, on monte, on descend. Alors, nous allons partager ensemble maintenant des annonces avec Aurore, notre présidente du Conseil presbytéral.
Merci Béatrice, merci pour cette très belle prédication. Les enfants du cathé diraient, c'est à nous de jouer maintenant.
Ah oui.
Voilà, c'est donc à nous de jouer.
J'avais un petit, pardon, je vais juste rajouter une anecdote. J'avais un petit enfant de l'éducation biblique qui, chaque fois qu'il me voyait, me disait, Béatrice, prête-moi ta robe. Alors je lui prêtais ma robe, il nettoyait tout le temple parce qu'il était beaucoup plus petit que moi quand même, et donc il traînait ma robe dans tout le temple, et une fois qu'il l'avait bien empoussiérée partout, il me la rendait en disant, maintenant je sais ce que c'est que d'être pasteur. Voilà. Je trouvais que le symbole de la poussière était quand même très intéressant, puisque c'est le terme pour dire la diaconie. Voilà.
À cet égard, si vous voulez rester à la fin du culte pour passer un coup de balai, vous êtes tous les bienvenus.
On vous prêtera nos robes.
Quelques annonces. Demain soir, nous sommes pour sa deuxième édition. L'Oratoire du Louvre est partenaire du Festival de Paris des Orgues. Donc David Cassan, notre organiste co-titulaire, donne un récital d'orgue. Alors c'est organisé non pas par l'Oratoire, mais par le Festival Paris des Orgues. Il y a une billetterie, mais si vous êtes venu, voulez venir écouter, c'est demain soir, vous êtes vraiment les bienvenus. Et ça fait du bien d'écouter un de nos organistes en récital. Il le mérite. Également dimanche, alors... Tu n'es pas avec nous, tu es à Boulogne, Béatrice, en train de prêcher. Et donc nous restons avec Agnès. Et ce dimanche, nous partageons la scène. Donc soyez nombreux à venir partager la scène. Et ceux qui veulent préparer la scène avec nous sont également les bienvenus. Signalez-vous à la sortie de ce culte. Et alors dimanche, Agnès me regarde d'un air inquiet. Elle se demande ce que vous allez lui préparer pour le déjeuner. Parce que son mari n'est pas là, et le dimanche midi, il faut pouvoir nourrir Agnès. Donc vraiment, préparez vos meilleurs petits mets, restez déjeuner avec Agnès, s'il vous plaît, parce qu'on fait un déjeuner partagé, elle s'amuse, on fait un déjeuner partagé dimanche, et après nous parlons de fratrie, fratrie familiale. Et c'est pas piqué des vers hein, dans la Bible, donc le titre de l'après-midi, c'est « Quel programme ?», c'est ça ? Non, sérieusement, les textes dans la Bible sur la fratrie familiale expliquent à quel point nous avons par moment besoin d'une fratrie entre nous, non sanguine. Donc ce dimanche, restez déjeuner avec Agnès et partagez des paroles d'amour autour de la fratrie. La semaine prochaine, lundi, groupe protestant des artistes et grecs, pause spirituelle à nouveau jeudi prochain, et le dimanche d'après, la Pentecôte. Voilà. Donc c'est que quelques annonces. Vous savez que nous ne vivons que de dons, et de dons joyeux. Donc pour tous ceux qui sont en ligne, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup en ligne, tout le monde me montre la caméra, il y a un bouton qui s'appelle le don joyeux sur le site internet. Et pour ceux qui sont ici, eh ben, nous allons passer dans les rangs. Merci beaucoup et excellent jeudi, ça fait un drôle d'effet, excellent jeudi à vous tous.
Je vous invite à la prière. Éternel, nous te remettons notre monde. Nous prions pour lui sans cesse. Et nous cherchons à travers toutes les violences qui nous sont dites, rapportées, comment ta parole agit. Donne-nous l'assurance, Seigneur, que tu es toujours auprès de nous, auprès de chacun, et que tu veilles sur tous les êtres de cette terre. Nous te prions ce matin, Seigneur, pour tous ceux qui cherchent à apprendre, qui ont tant besoin d'apprendre de nouvelles choses, de former leur esprit. Rappelle-nous la chance extraordinaire qu'est cet apprentissage et permets que nous soyons toujours conscients de la richesse que représente une culture. Donne-nous des maîtres, Seigneur, non pas ceux qui écrasent pour se faire briller, mais ceux qui enseignent ce qu'ils ont de plus précieux en eux, dans un partage généreux, et qui élèvent des vies au-delà de toute espérance, qui transforme des destins par des paroles apprises, des gestes répétés, des savoir-faire acquis. Donne-nous des maîtres, qu'ils soient les artisans que nous regardons faire pour pouvoir nous aussi faire mieux. Permets que nous soyons, Seigneur, élevés dans nos vies, au-dessus des apparences, au-dessus de la chair, au-dessus du temps et de l'espace, et que nous puissions grandir spirituellement avec toi. Mets-nous à ton écoute, à ton école, que nous soyons heureux d'avoir encore tant de choses à apprendre dans nos vies. Nous te remettons tous les enfants de notre société, et particulièrement tous les enfants de par le monde, mais dans notre pays aussi, qui n'ont pas le loisir d'aller apprendre. Aide-nous à faire de ce monde un monde meilleur, qui abaisse l'orgueilleux et élève quiconque veut apprendre de l'autre. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous avons traversé ce temps ensemble et nous avons appris des témoignages anciens ce que le Seigneur a transmis dans la foi et qu'il nous transmet encore aujourd'hui. Il nous faut enseigner cet amour inconditionnel de Dieu dans ce monde mais pour pouvoir l'enseigner, il nous faut l'apprendre sans cesse. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur, de toute grâce, nous bénit et nous garde. Amen.